l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 26 mars 2014, Q comme quantique par Nicolas Feltin. La métrologie est une discipline essentielle pour la maîtrise des mesurages et pour vérifier la cohérence des résultats expérimentaux effectués entre laboratoires. La principale mission du Laboratoire national de métrologie et d'essais est d'assurer la mise en œuvre des unités du système international d'unités, SI, et l'accès des utilisateurs d'instruments aux références métrologiques dont ils ont besoin. L'idée d'un système d'unités universelles est née sous la Révolution française au travers de la mise en place du système métrique. Depuis cette époque, le système d'unités a évolué et la métrologie a su tirer parti des découvertes de la physique pour élaborer des étalons toujours plus performants, stables et reproductibles. Nicolas Feltin est diplômé de l'École nationale supérieure de chimie et physique de Bordeaux et docteur en physique chimie de la matière condensée. Son travail de thèse portait sur la synthèse par voie chimique et la caractérisation de nanoparticules de semi-conducteurs magnétiques, ainsi que sur l'étude des propriétés magnétiques des nanoparticules. Il vous propose ce 17e rendez-vous de la 5e saison de l'Agora des Savoirs.
Donc Nicolas Feltin, donc déjà c'est un ami avec qui, que j'ai plaisir de présenter à l'Agora des Savoirs. C'est une chance qu'il ait pu se libérer et venir nous présenter la métrologie, parce que c'est une science qui n'est pas forcément très connue. Donc Nicolas Feltin est ingénieur en chimie. Il a fait une thèse en physico-chimie sur les nanoparticules de semi-conducteurs en magnétique diluée. Et il travaille au LNE, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais. Il est situé, lui, entre Trappes et Paris. Et il a comme responsabilité la plateforme de nanométrologie du LNE, la plateforme qui s'appelle Carmen. Et il est aussi cofondateur, du club Non Pas du Siècle, sinon on serait point amis, mais du club de nanométrologie. Voilà, et donc ce soir, il va nous parler de la métrologie. Alors la métrologie, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, effectivement. Qu'est-ce que la métrologie? C'est ce que tu vas nous présenter un peu. En tout cas, on peut voir, ce que tu nous as dit un peu dans l'article de ce matin dans Direct Montpellier, c'est que c'est un point commun que l'on retrouve avec l'industrie, le commerce, les sciences, la santé, la sécurité. C'est un petit peu un thème qui est très transversal. Si on fait une comparaison, la métrologie aux sciences expérimentales, un peu ce que les mathématiques sont aux sciences théoriques. C'est un petit peu le point de départ de tout ça. Au LNE, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment de la métrologie, mais pas que. Il y a aussi des essais. Vous avez certainement vu à la veille de Noël les essais sur les jouets et la toxicité des jouets. C'est fait au LNE en grande partie. Donc c'est un EPIC, un établissement public, industriel et commercial, donc qui, un peu comme la SNCF. Donc qui est en charge ces questions d'essais et de certification. Et toi, tu travailles plus particulièrement sur l'aspect métrologie, plus particulièrement sur la métrologie électrique. Donc ce soir, ça fait un peu écho avec ce qui se passe à l'Université de Montpellier, parce qu'à l'Université de Montpellier, il y a aussi des équipes qui travaillent sur la métrologie, notamment l'équipe de métrologie quantique du professeur Chaubet, où j'ai la chance de travailler, et qui travaille sur des mesures avec le LNE, en partenariat avec le LNE, sur des mesures de champ magnétique, valeur absolue de champ magnétique dans des toutes petites structures, nanostructures. Tu nous parleras un petit peu du nanomonde, je crois. Et également, on travaille sur l'ohm, sur l'unité de résistance, au travers de l'effet Hall quantique, sur les aspects fondamentaux. On n'est pas des métrologues, on est des physiciens, mais on travaille avec les métrologues parce qu'ils nous apprennent un peu à bien mesurer les choses. Voilà, donc ce soir, cette conférence va tourner autour de la métrologie. Tu vas nous expliquer, de ce que j'ai compris, qu'est-ce que faire une mesure, qu'est-ce que la métrologie, qu'est-ce que le système international des unités, qu'on utilise un peu tous, surtout quand on va faire du bricolage, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et que vient faire le Q de quantique, la physique quantique dans ces unités? Donc ça, c'est quelque chose dont tu vas nous parler. Et enfin, on parle beaucoup de nanotechnologie, de nanomonde. Est-ce que tout ça, ça ne va pas bouleverser la métrologie? Et donc, c'est ça que tu vas nous présenter maintenant. Voilà, bonne conférence.
Donc alors, je suis ravi d'être ici. Je vous remercie beaucoup. Je suis étonné en fait du nombre de personnes qui se déplacent un mercredi soir pour entendre parler de métrologie et éventuellement de physique quantique ou de nanomonde. Je souhaite remercier la ville de Montpellier et le conseil scientifique de l'Agora des sciences. Donc voilà, je vais essayer de vous parler ce soir de métrologie avec, en parlant un petit peu de physique quantique et de nanosciences, nanotechnologie, qui vont être des prétextes pour à chaque fois introduire des notions de métrologie. Donc, juste une brève introduction à la métrologie. Donc on a l'habitude de dire que mesurer, c'est comparer, comparer une grandeur physique inconnue que vous souhaitez de mesurer par rapport à une grandeur de référence. Et là est symbolisée en fait cette balance, c'est votre point de mesure. Et la mesure que vous allez écrire, le résultat que vous allez écrire, c'est ce qui est représenté ici avec entre accolades, ça représente la valeur de la mesure de la grandeur Q que vous souhaitez mesurer. Entre crochets, l'unité de cette... C'est la science de la mesure. Le but, c'est d'exprimer des résultats de mesure en utilisant des références qui sont reconnues sans équivoque par chacun des acteurs. Et ça, c'est d'assurer la stabilité et l'exactitude des grandeurs de référence, d'estimer les incertitudes, hein, qu'on voit, sigma ici, d'établir les chaînes de traçabilité, je vous expliquerai ce que c'est par la suite, et puis surtout la valeur de référence ici dont vous avez besoin. Elle va être générée par un étalon qui doit être référent à une grandeur générale pour qu'il soit compatible avec tout type d'observable. Et là, j'ai dit tout à l'heure, là, je viens de dire, en utilisant des références reconnues sans équivoque par chacun des acteurs. Et il faut savoir que notre seule référence, qui est reconnue par tout le monde, au niveau international, c'est ce qu'on appelle le système international d'unité, et qu'on note SI. Donc vous voyez que toutes les parties en rouge, là, incertitude un peu moins, mais chaîne de traçabilité, étalon SI, ça va être les trois mots clés de cette présentation. Comme l'a dit Boris tout à l'heure, le rôle de la métrologie, c'est permettre l'échange de produits industriels, la maîtrise des mesurages, de vérifier la cohérence des résultats expérimentaux effectués dans les laboratoires académiques, mais aussi industriels, d'assurer la sécurité des biens et des personnes, au travers d'appareils de contrôle, d'étalonnage d'appareils de contrôle dans les aéroports par exemple, dispositifs médicaux, et de préserver l'environnement. Alors le plan de ma présentation de ce soir, il y aura trois parties. La métrologie d'hier, l'idée ça sera de vous montrer comment les définitions d'unités ont évolué au cours du temps. La métrologie d'aujourd'hui, alors justement en introduisant la métrologie électrique quantique, qui a bouleversé la métrologie. Cette métrologie électrique quantique et les étalons quantiques qu'on a développés vont permettre de redéfinir le kilogramme. Et tout ça va nous amener vers un nouveau système international d'unité. Donc je vous expliquerai tout ça. Et puis la métrologie de demain autour de la nanométrologie, science de la mesure à l'échelle du nanomètre, qui est en fait un peu le catalyseur du développement des nanosciences et des nanotechnologies. Donc je parlerai brièvement du contexte et des enjeux, et puis quelques idées pour bâtir les bases d'une métrologie dédiée aux nanomatériaux. Donc, hier, métrologie avec un petit peu d'histoire. Alors j'ai retrouvé ce texte, que je n'ai pas trouvé directement dans le livre de Denis Gage qui s'appelle « La Méridienne », mais que j'ai trouvé dans le livre sur Condorcet des époux Badinter. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Et ce petit texte montre la situation des unités à la veille de la Révolution française, où le bois se vendait à la corde, le charbon de bois à la tonne, le charbon de terre à la bacherelle, l'ocre au tonneau et le bois de charpente à la marque ou à la solive. On vendait des fruits à cidre à la poissonnée, le sel au muit, au sétier, à la mine, au minot, au boisseau, à la mesurette. La chaux se vendait au poinçon et le minerai à la rasière. On achetait l'avoine au picotin et le plâtre au sac. On se procurait le vin à la pinte, à la chopine, à la camuse, à la roquille, au petit pot et à la demoiselle. On vendait l'eau de vie à la potée. Le blé au muit et à l'écuellée. L'étoffe, les tapis et les tapisseries s'achetaient à l'aune carrée. Le bois et les prés se comptaient en perches. Les longueurs étaient mesurées en toises et en pieds du pirou, lequel équivalait à un pouce, une logne et 8 points du pied du roi qui se trouvait être celui du roi Philictère, celui de Macédoine et celui de Pologne. On avait entre 700 à 800 noms d'unités. Donc, l'esprit des Lumières ne pouvait pas s'en contenter, et un ministre, célèbre ministre de Louis XVI, Turgot, propose à Condorcet de s'atteler au problème de l'unification des poids et mesures. Et en réalité, l'idée qu'il avait derrière la tête, c'est que les finances de l'État étaient catastrophiques et qu'on pouvait faire de grandes économies en ayant un système métrique cohérent. Alors évidemment, Turgot, comme vous le savez, n'a pas duré longtemps auprès de Louis XVI, et il faut attendre 1789, la Révolution française, et une commission des poids et mesures qui se réunit sous la Constituante autour d'un certain nombre de physiciens et de mathématiciens, Monge, Lavoisier, chimistes, Laplace, qui réfléchissent à la mise en place d'un système cohérent. Et il faut attendre, donc, 10 ans plus tard, 1799, pour que ce système métrique cohérent puisse voir le jour. Alors, ce système a été proposé aux Anglais, mais l'ambiance entre la France et l'Angleterre, c'est toujours un petit peu complexe. L'idée, c'était que si l'Angleterre acceptait, ça devenait un système international. Et pour ça, les Anglais n'ont pas accepté, et je vous laisse apprécier. Et il faut attendre 1875 pour qu'on voit enfin un système international d'unité voir le jour avec la signature de la Convention du Maître. Donc, quelle est la situation en 1799, c'est-à-dire quelle est la définition du maître? Eh bien, il s'agit de la 10 000, le maître est défini comme la 10 millionième partie de la distance entre l'équateur et le pôle mesurée le long de la surface de la Terre. Alors, une fois que vous avez donné cette définition, très bien, mais il faut faire une mesure. Alors on a demandé à deux astrophysiciens, Jean-Baptiste Delambre et Pierre-François Méchain, de faire une mesure d'un arc du méridien. Alors il y en a un qui est parti à Dunkerque, l'autre est parti à Barcelone, ils ont essayé de se rejoindre, et ils ont fait cette mesure de l'arc du méridien. Alors ils ont utilisé une technique, à l'époque, qu'on utilise aujourd'hui, qui est la triangulation. L'idée, c'est de dessiner des triangles tout au long de cette droite et de mesurer deux angles et un seul côté. Et en ayant deux angles et un seul côté, vous avez les deux autres côtés. Donc ça vous permet de limiter en fait les mesures et surtout d'augmenter considérablement les redondances pour pouvoir connaître correctement la distance de chacun des points sur la ligne entre Dunkerque et Barcelone. Ils ont utilisé un instrument de mesure qui venait d'être inventé quelques temps avant, le cercle répétiteur de Borda. Borda qui d'ailleurs faisait partie de ces scientifiques qui réfléchissaient au système métrique. L'idée de c'est un sectant en fait qui mesure donc des angles, mais qui en fait ne tient compte de l'altitude et fait des corrections des altitudes. Et là, en l'occurrence, on peut s'apercevoir que pour passer le Massif central et les Pyrénées, il fallait quand même aussi faire quand même quelques corrections. Et il s'avère que finalement, même si l'un des deux, je ne sais plus si c'est Delambre ou Méchain, jusque dans son lit de mort, il était persuadé d'avoir fait des erreurs fondamentales, ils ont fait une mesure assez correcte. Et ça a permis finalement de définir un mètre qui n'est pas celui-là dans un premier temps, qui a été fabriqué dans du marbre et qu'on peut trouver au 36 rue de Vaugirard à Paris. Enfin, un des exemplaires, il y en a eu quelques dizaines dans Paris, où les gens venaient étalonner et utiliser ce mètre qui était à la disposition de tout le monde. Et le prototype qui est en platine irédiée ici date de 1889 et est aujourd'hui au pavillon de Breteuil. Alors ça, c'est le mètre, mais qu'en est-il de la seconde? Eh bien, la seconde, en 1799, alors je voudrais simplement attirer votre attention que finalement, la définition du mètre, cette définition du mètre et de la seconde, elles ont été conservées jusqu'en 1960. Et donc, la définition de la seconde, c'était définie comme la fraction de 1 sur 86400 du jour solaire. Alors, le jour solaire, on utilisait un jour solaire moyen parce que le jour solaire, il varie de 30 minutes au cours de l'année pour deux raisons. D'abord, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même, elle va dépendre de la distance par rapport au Soleil, et cette distance varie lorsque la Terre décrit l'orbite elliptique. Puis il y a une autre raison aussi, c'est que l'angle que forme l'équateur, le plan équatorial terrestre et le plan de cette orbite elliptique varient également. Donc on a décidé que le jour était de 24 heures. Bon. Donc voilà les diffusions de la seconde de 1799. Mais en 1960, on décide de modifier cette définition de la seconde, et la 11e conférence générale des poids et mesures décide d'utiliser le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil pour définir l'unité de temps. Parce que la définition précédente n'était pas assez stable, les incertitudes n'étaient pas assez intéressantes. Et là, je vous laisse apprécier la définition de 1960. Donc c'est une seconde de temps des éphémérides qui est définie comme la fraction de 1 sur 36 556 925,9747 de l'année tropique commençant le 0 janvier 1900. Je vous laisse apprécier le 0 janvier 1900. À 12 heures du temps des éphémérides. Le temps des éphémérides est obtenu comme solution de l'équation qui donne la longitude moyenne géométrique du Soleil. Donc c'est les solutions de cette équation. T est compté en siècle julien de 36 525 jours des éphémérides. Et l'origine des T est datée au 0 janvier 1900, c'est-à-dire en fait 12 heures avant le 1er janvier, à l'instant où la longitude moyenne du Soleil a pris une certaine valeur. Donc inutile de vous dire que cette définition n'a duré que 7 ans. Parfois, les métrologues ont du mal à être un peu réalistes. Laissons ça pour le moment, on verra la suite plus tard. Intéressons-nous à cette 11e conférence générale des poids et mesures qui finalise en 1960 le système international d'unité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système d'unité ? C'est un système cohérent qui est rationalisé, qui couvre l'ensemble du champ disciplinaire de la mesure physique. Notre système international d'unité, qui est encore en cours, a 7 unités de base que sont le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole et le candela. Et à partir de ces 7 unités de base, on définit des unités dérivées. J'en ai donné un exemple ici, mais il y en a bien d'autres. Prenons l'une de ces unités, le volt. Pour chaque unité, on donne une définition. Alors, pour le volt est la force électromotrice entre deux points d'un conducteur supportant un courant de 1 ampère quand la puissance dissipée entre ces deux points est de 1 watt. Quand on définit, quand on donne une définition, en général, on définit une expérience qui va avec pour vérifier que la définition n'est pas complètement stupide. Et ça, c'est ce qu'on appelle un étalon de représentation de l'unité. Pour le volt, il s'agit d'un électromètre, la balance du volt, où s'oppose une force de pesanteur exercée par une masse à une force électrostatique qui s'exerce entre les armatures d'un condensateur qu'on voit ici. Qui est constitué d'une électrode mobile, d'une électrode fixe. Et la tension au bord de ce condensateur, c'est la racine carrée de 2mgx, distance entre les deux électrodes, m la masse divisée par la capacité. Donc l'incertitude relative qui a été à l'époque obtenue au LCIE était de 3×10⁻⁶ pour une tension de 10 kV. Alors ça, c'est pour conforter les métrologues qui ont donné cette définition, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on va utiliser tous les jours pour étalonner les appareils. Et il y a pour ça ce qu'on appelle un étalon de représentation. Et l'étalon de représentation permet justement d'avoir cette valeur de référence dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est transmise vers les utilisateurs. Alors pour le volt, pendant longtemps, il s'agissait de la pile étalon. Pile de Weston, qui en fait permettait de développer une force électromotrice de 1,01864 volts à 20 degrés. Après, plus tard, avec l'arrivée de l'électronique, on a développé des références à diodes Zener qui permettent d'avoir une tension de sortie plus large. Donc finalement, si je résume, on a la CGPM, on a vu plusieurs CGPM qui ont pris des grandes décisions, qui prennent donc les grandes décisions et qui définissent les unités. Elles se réunissent périodiquement tous les 3-4 ans. Et ensuite, les décisions retombent au niveau des instituts nationaux de métrologie, comme le Laboratoire national de métrologie et d'essai. Et leur mission, c'est de développer les étalons primaires nationaux. Ces étalons primaires nationaux, depuis 1999, sont comparés avec les étalons primaires nationaux et étrangers afin de les modifier et d'améliorer leur incertitude. Ces étalons primaires nationaux vont donner une valeur de référence. Et ces valeurs de référence vont être transmises aux utilisateurs par l'intermédiaire de laboratoires d'étalonnage accrédités ou non accrédités, labos associés au LNE en France. Les entreprises peuvent avoir des étalons industriels qui sont, et en bout de chaîne, on a l'utilisateur qui fait sa mesure. Bien. Maintenant, quelle est la situation actuelle des unités et des étalons de représentation dont l'on vient de voir? Alors, on avait laissé l'histoire de la seconde avec une définition un petit peu abracadabrantesque. Et on donne, en 1967, donc toujours, hein, c'est la CGPM qui décide ça, donc la 13e CGPM de 1967, donne une nouvelle définition de la seconde. Et c'est la première incursion, en fait la deuxième, de la physique quantique en métrologie pour des définitions d'unités. Donc la seconde, en 1967, à partir de 1967, est définie comme la durée d'un certain nombre de périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins, que l'on voit ici, de l'état fondamental d'un atome de césium-133. Alors ça, c'est les avancées de la spectroscopie et la connaissance des niveaux discrets des atomes qui ont permis, effectivement, de mettre un tel étalon, pour conserver la seconde. Et il s'avère, donc ce sont des horloges qui sont dites atomiques, il s'avère que grâce à cette nouvelle définition de la seconde et grâce à ce nouvel étalon de représentation, on gagne plusieurs ordres de grandeur sur la connaissance de la seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, les horloges atomiques d'aujourd'hui sont à atomes froids et sont un peu différentes de celles de cette époque-là. Mais aujourd'hui, avec les horloges atomiques, on connaît la seconde à 10-15 près. Alors, souvent, on me pose la question, mais ça sert à quoi de connaître la seconde à 10-15 près? Ben, il faut savoir que c'est parce qu'on connaît au moins la seconde à 10-12 près que le GPS existe. Si on n'était pas capable de mesurer avec une telle précision la seconde, eh ben, on ne pourrait pas faire de GPS. Qu'en est-il pour le mètre ? Eh bien, en 1983, maintenant qu'on a une solide définition de la seconde avec un solide étalon de représentation, on décide de dématérialiser le mètre. Le mètre, je vous rappelle, c'était ce mètre en platine iridiée qui était au pavillon de Breteuil et qui était à la référence internationale. Eh bien là, on décide de le dématérialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, comme définition, on dit que le mètre, c'est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur la vitesse de la lumière. La même année, on décide, enfin dans la même réunion, on décide de fixer la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incertitude liée, associée à la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière devient une constante de conversion du temps et de l'espace. Alors tout ça fait que on s'est aperçu que grâce à la physique quantique et grâce au fait que, en physique quantique, les observables ont des niveaux discrets et non pas des niveaux continus comme en physique classique, eh bien ça permettait de faire des étalons de représentation avec des bas niveaux d'incertitude, une grande stabilité dans le temps et une grande reproductibilité, et que tout ça est fondé sur des lois de la physique bien établies. Qu'en même temps, il ne dépendait pas du repère spatio-temporel dans lequel on faisait les mesures. Donc on a décidé d'aller plus loin et d'en développer d'autres. Et l'idée, c'était d'être à l'écoute des physiciens et de savoir finalement quelles étaient les grandes découvertes. Donc premier exemple, je reviens sur mon volt. Donc on a vu qu'on avait ici des étalons de conservation qui étaient la pile de Weston, des diodes Zener. Bien aujourd'hui, ce sont des réseaux de jonction de Josephson. Alors, qu'est-ce qu'une jonction de Josephson d'abord? Imaginez un bout de supraconducteur qui soit interrompu ici par un bout d'isolant. Alors, vous savez peut-être que les électrons se baladent par paires en supraconductivité. On appelle ça des paires de Cooper. Ce qu'a fait Josephson à la fin des années 60, c'est qu'il a pris donc, ce petit dispositif extrêmement simple. Hein. Donc, je répète, un bout de conducteur ici, supraconducteur, qui est coupé ici en rouge par un bout d'isolant, donc une jonction. Il polarise, il fait passer les électrons de paire de Cooper, et il soumet ça à un rayonnement électromagnétique de fréquence F, de l'ordre de quelques gigahertz. Et il s'aperçoit que les courants de paire de Cooper se synchronisent avec la fréquence et qu'il y a une tension continue qui apparaît aux bornes de ce dispositif. Il fait classiquement une caractéristique, il trace une caractéristique tension-courant et il s'aperçoit que finalement, en faisant varier le courant ici, il obtient ici des plateaux de tension périodiquement. Et cette période, c'est F sur KJ. F, c'est la fréquence du rayonnement électromagnétique. Et KJ, il appelle ça la constante de Josephson. Donc, il se retrouve ici avec des plateaux ou des marges de Shapiro, des plateaux de tension qui valent N, le numéro du plateau, multiplié par une fréquence, multiplié par l'inverse de sa constante KJ. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un tel étalon de représentation pour la seconde et donc pour la fréquence que finalement, et qu'on connaît à 10-15 près, la fréquence n'est plus un problème en métrologie. On l'évacue. Donc on se retrouve avec une tension qui dépend que d'une constante qui s'appelle KJ. Or, les physiciens connaissent cette constante, KJ, puisque en fait, elle vaut l'inverse du quantum de flux, c'est-à-dire deux fois la charge de l'électron divisée par la constante de Planck. Donc on se retrouve avec une tension extrêmement simplifiée qui est directement reliée à des constantes fondamentales. Très bien. Alors, petit problème, tout ça arrive dans des micro-dispositifs, donc il faut avoir, les techniques de lithographie pour fabriquer ça, et malheureusement, la physique quantique pour le moment, enfin, les étalons quantiques pour le moment fonctionnent à basse température. Ça, c'est un petit peu les limitations. La tension, très bien, qu'est-ce qui se passe pour la résistance? Pendant longtemps, les étalons de conservation de l'ohm, c'était ces résistances matérielles, ici qu'on voit ici, donc une résistance à 10 000 ohms, à 1 ohm. Maintenant, ce sont des barres de Hall ou des réseaux de barres de Hall. Alors, tout à l'heure, Josephson, j'ai oublié de vous dire, 73, il a fini par avoir le prix Nobel. Bon, bah là, on a un autre prix Nobel, von Klitzing, 85, sur les folles quantiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début des années 80, von Klitzing, il s'amuse avec un petit objet qui ressemble en fait à une barre de Hall classique, sauf qu'en fait, il force les électrons. Alors, malheureusement, on ne voit pas du tout, mais ici, là où je mets le petit pointeur, normalement, on voit une ligne rouge. Il force les électrons à être confinés dans un système à deux dimensions. Il empêche les électrons de se balader en Z. Donc les électrons ne peuvent se balader que en deux dimensions. On appelle ça un gaz 2D d'électrons. Bien. Donc il polarise ce système avec ce gaz 2D d'électrons et il plonge ce petit dispositif dans un champ magnétique. Et il mesure, comme pour un effet au classique, il mesure la résistance ici transverse et la résistance longitudinale. Alors, il fait ça à 1,5K, encore toujours pareil, basse température, et il fait varier le champ jusqu'à 8 à 12 Tesla. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'en faisant varier le champ magnétique ici, il mesure RH, donc la résistance transverse, et RXX, la résistance longitudinale. Il s'aperçoit que sur le RH, eh bien, il a des plateaux qui apparaissent. Vous voyez les plateaux ici. Et chaque fois qu'il y a un plateau, eh bien, la résistance longitudinale, elle s'annule. Alors, il essaie de mesurer, hein, de voir quelle est la résistance sur ce plateau. Et qu'est-ce qu'il voit? Il s'aperçoit qu'en fait, RH, c'est une constante qu'il va appeler la constante de von Klitzing. Donc, en fait, il y a la constante de Josephson, la constante de von Klitzing, enfin, chacun a sa constante. et divisé par le numéro du plateau. Et là, il s'avère que c'est le deuxième plateau. Donc, la résistance qu'il mesure, c'est une constante divisée par le numéro du plateau. Or, il s'avère que les physiciens connaissent RK, en fait. RK, c'est la constante, le quantum de résistance, c'est H sur E carré. Donc, constante de Planck divisée par la charge de l'électron au carré. Donc là, on retrouve encore quelque chose d'incroyable, c'est que on mesure la résistance, on aperçoit que cette résistance est directement reliée uniquement à des constantes fondamentales que sont la constante de Planck et la charge de l'électron. Très bien. Alors là, on se dit, bon, on va continuer. On a la tension, on a la résistance. Alors, bon, actuellement, ce qu'on essaye de faire, et notamment il y a une équipe au laboratoire qui fait ça, et c'est d'étudier cet effet Hall quantique dans le graphène, qui est le matériau à la mode en ce moment, mais qui met en œuvre un effet Hall quantique un peu particulier que je serais bien incapable d'ailleurs de rentrer dans les détails aujourd'hui. Je continue. On a la tension, on a l'effet Hall quantique, on a la résistance. Qu'en est-il du courant ? Bien là, à peu près à la même période, début des années 80, il y a deux Américains, Fulton et Dolan, qui travaillent au Bell Labs, et eux, ils jouent avec un petit dispositif qui est extrêmement simple. C'est toujours un bout de piste, ici, en aluminium, qu'ils vont interrompre deux fois par un isolant, ici. Donc en gros, de l'aluminium, avec deux bouts d'alumine qui viennent interrompre le circuit. Donc ici, on a un îlot métallique qui est donc isolé, hein, puisque de chaque côté, on a un isolant. Il est isolé électriquement par rapport au reste du circuit. Très bien. D'un point de vue énergétique, on peut présenter la chose de la manière suivante. On a à gauche une source, on va appeler ça la source. À droite, on a le drain. Ici, on a l'îlot. Et ici, on a le niveau de Fermi, c'est-à-dire là où sont l'énergie des électrons de conduction. Ici, le niveau de Fermi que j'ai placé n'importe où du Lilo, et puis celui du drain. Très bien. Alors là, vous allez me dire, d'accord, mais en physique classique, le problème, c'est que l'électron, il ne va pas pouvoir aller sur Lilo et encore moins sur le drain, parce que là, il y a une barrière tunnel hein, qui symbolise en fait le bout, la petite épaisseur d'isolant. Un électron ne peut pas rentrer dans un matériau isolant, justement parce qu'il est isolant. Eh bien, en fait, si, parce que l'électron, il peut être considéré comme une corpuscule, comme un bout de matière, ou comme une onde. Et ça, on le doit à un monsieur qui s'appelle De Broglie. Simplement, je vais vous montrer la thèse de Louis De Broglie, qui en réalité fait deux pages. Première page, premier chapitre. La thèse s'appelle « Recherche sur la théorie des quantas », thèse 1924. Alors, pour les gens qui se posent la question, comme Boris Chenot, pourquoi il s'appelle De Broglie alors que ça s'écrit De Broglie, c'est qu'en fait, sa famille est d'origine italienne et qu'en italien, ça se dit De Broglie. Bon, on a gardé ça. Enfin, je me suis aussi posé la question pendant longtemps. Bref, premier chapitre, l'onde de phase. Donc, la relation du quantum et la relativité. Et il écrit une des plus importantes conceptions nouvelles introduites par la relativité est celle de l'inertie de l'énergie. D'après Einstein, l'énergie doit être considérée comme ayant de la masse, et toute masse représente de l'énergie. La masse et l'énergie sont toujours reliées l'une à l'autre par la relation générale E égale mc carré. Très bien. Un peu plus loin, il écrit « Ceci rappelé, cherchons sous quelle forme nous pouvons faire intervenir les quantas dans la dynamique de la relativité. » Il nous semble que l'idée fondamentale de la théorie des quantas soit l'impossibilité d'envisager une quantité isolée d'énergie sans y associer une certaine fréquence. Cette liaison s'exprime par ce que j'appellerais la relation du quantum. Bon, en fait, c'est Planck, hein, E égale H nu. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il dit si E égale mc carré et que E égale H nu, ça doit vouloir dire que H nu égale mc carré. Et donc, il dit... On peut donc concevoir que par suite d'une grande loi de la nature, alors il s'avère que la thèse concerne les électrons, hein, mais il dit, ça marche pour les électrons, ça va marcher pour tout. Donc on peut concevoir que par suite d'une grande loi de la nature, à chaque morceau d'énergie de masse propre, M0, soit lié un phénomène périodique de fréquence nu0 tel que H nu égale mc carré. Alors Langevin, c'est le directeur de la thèse. Et il y a au moins un des rapporteurs qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce rigolo? On va pas lui donner sa thèse. Au bout de deux pages, là, c'est pas possible. » Donc Langevin, il écrit Einstein. Et Einstein répond en mettant « De Broglie a levé un coin du voile. » Et c'est grâce à Einstein que De Broglie a eu sa thèse. Parce qu'en fait, on pouvait pas lui donner. Ah, ça, c'est... Parfois, faut écouter un peu plus souvent les doctorants... et leur faire confiance. Donc, grâce à M. De Broglie, on sait que l'électron, il va pouvoir passer sur l'îlot. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, Felton et Dolan ? Ils ont polarisé le système, c'est-à-dire qu'ils ont élevé le niveau de Fermi de la source par rapport au drain. Alors, il faut savoir que le jeu, c'est l'électron, il peut passer d'un niveau inférieur à un niveau... Non, d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, mais qui ne peut pas passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Alors ça, c'est vrai que si la température est basse, et on va se placer dans ces conditions-là, on ne lui donne pas de l'énergie pour qu'il puisse passer à un niveau supérieur. Si les dimensions des jonctions tunnels qui sont mises en œuvre sont extrêmement petites, les dimensions réduites, la capacité est très faible, et à ce moment-là, l'énergie de Coulomb qui apparaît est très grande. Et donc on peut se retrouver dans le cas... qui est ici, où finalement le niveau de Fermi de la source se retrouve inférieur au niveau virtuel qui correspond à l'énergie de Coulomb. Et dans ce cas-là, l'électron ne peut pas passer. Donc ce qu'ont fait Felton et Dolan, c'est qu'ils ont mis une grille, c'est-à-dire une capacité, en appliquant une tension. Et là, en faisant ça, vous pouvez modifier en fait le niveau sur l'îlot. Et si vous vous placez, le niveau qui correspond à la nigette de Coulomb en dessous, eh bien votre électron il va pouvoir passer. Et le suivant, il va pouvoir passer que si le premier est passé au niveau du drain. Et là, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Ils ont inventé un système qui fait passer les électrons un par un à travers un nanodispositif. Et ça, ça a donné l'émergence de l'électronique à un électron. Qu'on appelle dispositif 7 en anglais. Alors on le voit assez mal, mais en fait, en faisant varier VG, pour vous le prouver que la mesure existe, en faisant varier VG, vous avez du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, en faisant varier ces niveaux. Alors là, avec ça, vous avez en fait une ouverture de porte, une fermeture de porte, mais vous ne contrôlez pas le passage des électrons. On sait qu'ils passent par un, mais on n'arrive pas à les contrôler. Pour ça, il faut attendre les années 90, et une équipe du groupe Quantronic au CEA de Saclay, qui propose un dispositif qui est légèrement plus complexe que celui de Felton et Dolan, c'est-à-dire qu'il rajoute simplement une jonction supplémentaire avec une grille supplémentaire. Et là, ils ont joué avec les tensions de grille ici. Ils ont fait bouger les tensions de grille, puis ils ont regardé là où j'avais du courant et là où j'en avais pas. Et ils tombent sur quoi ? Ils tombent sur une propriété tout à fait topologique intéressante. Là, ici, ça représente VG1 et VG2, hein, mes deux tensions de grille là, que je fais varier. Et je m'aperçois que le système il est complètement bloqué, c'est-à-dire que comme dans le petit dispositif de Dolan, j'ai ce qu'on appelle le blocage de Coulomb, le courant ne passe pas, sauf dans des points ici qui sont en rouge et en bleu. Et ils s'aperçoivent de quoi ? Qu'en faisant des calculs, vous voyez que ces points bleus et rouges forment un réseau en nid d'abeilles, et qu'à l'intérieur de chaque domaine ici, on a un domaine stable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, sur ce domaine-là, le domaine stable, c'est 0 électron sur le premier îlot et 0 sur le deuxième. Très bien. Et sur le celui d'à côté, ils sont aperçus que le domaine stable, c'était 1 et 0, c'est-à-dire 1 électron sur le premier îlot, 0 sur le deuxième. Et puis le suivant, c'était 0,1. 0 électron sur le... Excusez-moi, je vous montre avec le doigt, mais c'est mieux quand même de le montrer. 0 électron ici sur l'îlot. Donc je recommence. On part de 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, et enfin, ici, 0, 0. Et ils se disent, si on tourne autour du point, eh ben en fait, on va faire passer un électron sur le premier îlot, un autre sur le deuxième, un autre sur le troisième. Comment on fait pour tourner autour d'un point ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Ici, sur les deux tensions de grille, VG1 et VG2, j'ai une partie continue. Et cette partie continue correspond, en fait, aux coordonnées du point. Et si je mets une partie alternative, avec une certaine amplitude, eh bien, je vais tout simplement tourner autour de ce point. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais introduire un premier électron. Le premier électron, il va sauter sur le deuxième îlot et il va ressortir au niveau du drain, et ainsi de suite. Et en fonction de la fréquence de la partie alternative de ma tension de grille, eh bien, je vais pouvoir augmenter le courant. Et comme je suis dans un système, un dispositif monoélectronique, je sais que je n'ai fait passer qu'un seul électron à la fois. Et ça marche très bien. On voit ici des marges de courant. En faisant varier la fréquence, on a différents plateaux de courant. Et le courant est bien stable sur toute cette partie-là. Alors, on s'est amusé à mesurer la charge de l'électron avec ce genre de dispositif. On n'a pas fait mieux que SanDisk-6 pour l'instant, mais malheureusement, ces dispositifs, encore aujourd'hui, ne génèrent pas, avec les dispositifs tels que je vous les ai présentés, sont capables de générer des courants extrêmement faibles, de l'ordre de 3 à 4 picoampères, ce qui est insuffisant. Alors, il y a toute une zoologie de dispositifs qui sont en ce moment à l'étude. Il y en a un qui est assez amusant, c'est le fil quantique d'hétérostructure. On a ici un gaz 2D, hein, comme tout à l'heure, on a lithographié dessus des doigts qui viennent modifier le potentiel du système. Et, ah bah mince, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il me manque une image malheureusement. Ça, c'est le passage du PC au Mac, il y a toujours des petits problèmes. Tant pis. En fait, en modifiant le potentiel local de ce système, vous allez créer une vague. Et vous allez arriver à un moment donné, prendre les électrons qui sont sur la source et qui vont être piégés. La vague, elle va monter. La deuxième vague va descendre et les électrons vont pouvoir passer au niveau du drain. Et on va faire une vague comme ça. Et l'article qui montrait ça disait c'est comme si les électrons surfaient sur une vague de potentiel. Et ça marche très bien. Et on arrive à faire passer les électrons d'une source à un drain comme ça, de façon assez précise. Donc je fais un résumé. On a trois effets quantiques. Ces trois effets quantiques sont liés à des constantes fondamentales, que sont la constante de Planck, E pour l'effet Hall quantique, E et H pour l'effet Josephson, et petit e tout simplement pour l'effet monoélectronique. L'idée, et je vous demanderai de me croire, c'est que pour l'instant, on a, en tant que pétrologue, même si les physiciens savent que RK est égal à H sur E carré et que KJ égale 2E sur H, en tant que métrologue, on aimerait en fait le démontrer à une certaine valeur, à 10-8 près, ça serait très bien. Alors l'idée, c'est quoi ? Pourquoi on a besoin de faire ça ? Pour montrer ça, on a décidé de faire une expérience qui s'appelle le triangle métrologique. L'idée est tout simplement de mettre une loi d'Ohm au niveau quantique. Donc, un dispositif monoélectronique générerait un par un des électrons. Ce courant serait un petit peu amplifié, passerait dans une résistance, soit une barre de Hall, soit une résistance qui est étalonnée en permanence via une barre de Hall. Et cette tension, on va l'opposer à une tension de Josephson et regarder les écarts. Et si on a cette égalité à 10-8 près, ça va vous donner beaucoup plus de confiance sur ces deux égalités-là. Et l'idée à la fin, c'est quoi ? C'est de dire que si on a confiance dans ces deux phénomènes que sont l'effet quantique et l'effet Josephson, et si les tensions et les résistances qu'on mesure sont réellement reliées à E et H, à ce moment-là, on pourrait redéfinir toutes les unités à partir de deux constantes fondamentales que sont la charge de l'électron et la constante de Planck. Ça, c'est l'idée. Fort de ça, on s'est dit, on va s'attaquer au kilogramme. Alors, qu'en est-il du kilogramme ? Un kilogramme, c'est égal à la masse du prototype interstitial du kilogramme, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un prototype qui est au pavillon de Breteuil, dans un coffre-fort qui a été coulé en 1890, et on a fait des clones. Et ces clones, on les a envoyés partout dans le monde. Chaque pays qui avait signé la Convention du Maître avait son clone, avait son étalon de représentation à lui. Le problème, c'est que régulièrement, on va comparer les clones entre eux. Et on s'aperçoit qu'il y a une dispersion relative de 5-10-8 sur les dernières mesures de 1990 entre les différents clones. Donc en fait, on ne connaît pas la vraie valeur en fait, à 10.8 près du kilogramme. Et ça pose un problème. Donc on a décidé de le dématérialiser. Et comment ? En 1975, il y a un métrologue anglais qui s'appelait Brian Cable qui a inventé une expérience. L'expérience, la voici. Il s'est dit, je vais opposer une force de pesanteur exercée par une masse de 1 kg, ça peut être 500 grammes ou 1 kg, ça dépend des balances, à une force de Laplace. Cette force de Laplace, en fait, elle est exercée par une bobine qui a un courant au travers de cette bobine et qui est plongée en fait dans un champ magnétique qu'on voit ici, là, un champ radial. La force de Laplace, c'est donc BLI, hein, l'induction magnétique multipliée par la longueur de la bobine multipliée par le courant. Et puis, bah, F, c'est MG. Bon. Donc on a MG égale BLI. Problème, on mesure très bien M, on mesure très bien G en métrologie, on mesure très bien le courant, mais on a du mal à mesurer l'induction et la longueur. Donc, il a imaginé une deuxième phase, étant la phase statique, une deuxième phase qui est une phase dynamique. Et cette phase dynamique, on enlève la masse, on coupe le courant, et on fait simplement, on crée un mouvement de cette balance dans le champ magnétique radial. Et là, il y a une différence de potentiel qui apparaît et qui vaut moins BLV, vitesse de déplacement. Et là, j'ai BL. Et bien, avec ça, je vais pouvoir supprimer BL. Et je me retrouve avec MVG est égal à epsilon I, donc une tension fois un courant. Mais le courant, comme je viens de vous le montrer, l'étendue de courant avec les dispositifs électroniques, ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc pour mesurer correctement un courant, on utilise l'effet Hall quantique et l'effet Josephson. Donc on préfère écrire epsilon multiplié par V sur R, grâce à la loi d'Ohm. J'ai quoi ? J'ai une puissance mécanique qui est égale à une puissance électrique, d'où le nom de balance du watt. Très bien, allons plus loin. J'ai donc MVG égale epsilon V sur R. Je peux mesurer très correctement la masse avec des balances très précises. À 10-9 près, on peut le faire. G, petit g, donc la constante gravitationnelle, on peut la mesurer avec des gravimètres absolus. Aujourd'hui, à 10-9 près, ça ne pose pas non plus de problème. La vitesse, grâce à une bonne interférométrie, 10-9 près, pas de problème. Et puis, de l'autre côté, ici, comme je viens de vous le montrer, on a l'effet Josephson et l'effet Hall quantique. Et donc, on pourrait écrire que la tension, c'est N1, N2, F1, F2, divisé par la constante de Josephson. Et ma résistance, c'est RK sur I, multiplié par un coefficient qui correspond à la résistance qui est mise en jeu. Donc si je mets à tout ça, d'un côté, je mets dans A les choses qui ne me dérangent pas, des antinaturels, et puis des fréquences que je connais très bien, eh bien je tombe sur M sur H. Kj, Rk, c'est 2 E sur H, H sur E carré, donc là, ici, je peux remplacer. Et je tombe sur quoi ? Je tombe sur M sur H est égal à grand A divisé par 4 GV. Et qu'est-ce que c'est, ça ? Eh bien, c'est que, en fait, l'expérience que je viens de vous montrer, elle permet de mesurer la constante de Planck, en fait. Et donc, depuis 1979, les instituts de métrologie qui sont impliqués, enfin, qui ont des balances du watt, eh bien, essaye de mesurer la constante de Planck. Alors, vous voyez qu'en 1979, on avait une énorme barre d'incertitude. Mais dernièrement, la balance du watt canadienne a obtenu une toute petite barre d'incertitude. Et elle a mesuré la constante de Planck à 4,3 10-8 près. Tout à l'heure, on avait dit quoi ? On avait dit que 5-10-8, c'était la dispersion. Là, on commence à être bon, là. C'est-à-dire que bientôt, on va pouvoir remplacer, dématérialiser le kilogramme et le remplacer par une expérience telle que la balance du watt. On aura définitivement terminé avec les artefacts, avec les étalons matériels, puisque le kilogramme était le dernier. L'idée, c'est quoi ? C'est que dans la prochaine CGPM, qui va avoir lieu en 2017, eh bien, on va proposer un nouveau système international d'unité qui va être fondé sur des constantes fondamentales, que sont la constante, la charge de l'électron, la constante de Planck, peut-être la constante de structure fine, KB, probablement, enfin, obligatoirement pour la température, constante de Boltzmann. Et là, l'idée, ça sera de remplacer, vous vous souvenez, le SI actuel, il a 7 unités de base. Et bien, on va remplacer ces unités de base ici par des constantes fondamentales qui revêtent un caractère universel et qui sont plus proches des problématiques de la physique moderne. Mais ça, cette idée, elle avait été déjà proposée par George Stoney entre 1870 et 1880, où il avait construit et proposé un système universel d'unités à partir des dimensions de la longueur, de temps et de masse, hein, qui sont notées ici. Petit e, c'était le minimum de quantité d'électricité. Je vous rappelle que Stoney est l'inventeur de l'électron. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui a décrit l'électron qu'on connaît, enfin, qui est aussi proche de la description actuelle. Petit c, qu'il avait appelé vitesse de Maxwell, mais d'après la théorie électromagnétique de la lumière, c'est aussi la vitesse de la lumière. Et puis grand g, Newton de gravitation, qui correspond au coefficient de gravitation universel. Donc lui, il avait déjà imaginé ça, et en réalité, quand vous regardez bien, Planck, quelques temps après, avait déjà aussi imaginé un système d'unités basé sur des constantes fondamentales. J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure, je vais essayer d'accélérer, mais je pense que ça va aller. Alors, maintenant, vous avez vu, on a ce qui nous a permis de faire un grand pas en métrologie et de vous montrer, en fait, cette mécanique quantique, c'est qu'on a pu maîtriser des nanodispositifs, on a fabriqué des choses très petites. Et ça nous amène aux nanomatériaux, aux nanodispositifs. Et donc c'est ça que j'aimerais vous finir dans cette dernière partie, c'est vous montrer que à la fois on peut utiliser ces nanodispositifs pour faire de la métrologie, mais que aussi les nanomatériaux ont besoin d'une métrologie nouvelle, et cette partie-là s'appelle plutôt la métrologie de demain. De quoi parlons-nous quand on parle de nanomatériaux? En fait, les nanomatériaux, et notamment les nanoparticules, c'est un domaine de transition entre le monde des molécules ici, et des atomes, et le monde bulk qu'on connaît. C'est un domaine où on perd les propriétés quantiques des molécules pour arriver vers la structure de bande du matériau massif. Mais il faut donner des définitions. Et là, les organismes de normalisation s'en donnent à cœur joie. Mais il faut savoir que aujourd'hui, on n'a toujours pas, malheureusement, de définition stable de ce qu'est un nanomatériau. On sait que c'est un matériau dont une ou plusieurs dimensions caractéristiques externes dans le domaine du nanomètre ou composé de parties nanométriques. Mais qu'est-ce que ce domaine nanométrique ? Nanoscale, en anglais, qui pose un problème parce que l'ISO dit c'est approximativement 1 à 100. Le Skenir dit c'est de l'ordre de. Et puis l'OCDE typiquement entre. Et puis, il y a les Américains qui, eux, disent, nous, on ne veut pas de barrière, 1 100 nanomètres. On préfère dire, si un matériau entre 1 et 100 n'a pas de propriété nouvelle, on le sort. Mais si un matériau à 250 nanomètres a des propriétés nouvelles, on le fait rentrer dans le domaine des nanomatériaux. Donc, tout ça n'est pas très stable. Ce qui est stable, c'est qu'il y a deux types de nanomatériaux, le nanoobjet et le matériau nanostructuré. Le nanoobjet, c'est la nanoparticule qu'on voit ici, trois dimensions dans l'ordre du nano. Dans le domaine du nano, le nanophile, que deux dans le domaine du nano, et la couche mince, il n'y a qu'une dimension dans le domaine du nano. Et puis les matériaux nanostructurés, qui sont un mélange de tout ça. Finalement, si on veut faire un petit peu de déterminisme historique, on s'aperçoit que c'est tout à fait normal que ce soit à partir des années 2000, que le domaine a explosé, parce que finalement les ingénieurs, les physiciens ont fabriqué des dispositifs de plus en plus petits, les biologistes ont maîtrisé des choses de plus en plus petites, et les chimistes, eux, ils ont fait les chemins inverses. Souvenez-vous de Jean-Marie Lenne, de son prix Nobel sur les supramolécules. Lui, ils fabriquaient des choses de plus en plus grosses, et tout le monde s'est retrouvé dans le domaine 1 à 100 nanomètres à partir des années 2000. Mais tout ça, ce sont des briques élémentaires, à droite, à gauche. Dans les années qui vont suivre, il va falloir imbriquer tout ça, mélanger de la physique quantique, de la biologie, de la chimie, etc. C'est pour ça que c'est un domaine extrêmement pluridisciplinaire. Quelles sont les propriétés ? Pourquoi ça fascine tant les nanoparticules ? Parce qu'elles ont des propriétés tout à fait originales. En fait, les propriétés de ces nanoparticules, elles viennent du fait qu'elles sont plus petites que certaines longueurs caractéristiques de la physique. Je prends un aimant. Un aimant, vous savez peut-être, c'est quoi ? C'est des atomes qui portent des spins, qui sont à l'origine de cette aimantation. Mais en fait, il y a des domaines à l'intérieur de ces domaines, tous les spins vont dans le même sens, puis dans le domaine d'à côté, les spins vont dans l'autre sens. Ça, c'est pour minimiser l'énergie, parce que ça coûte beaucoup trop d'énergie de mettre tous les spins dans le même sens. Donc, évidemment, si vous avez deux domaines avec des spins dans un sens et des spins dans l'autre, c'est qu'il y a une frontière. Et cette frontière, eh bien, les spins se retournent peut-être progressivement. Imaginez que la particule soit plus petite que la frontière. La nature est incapable de créer ces domaines. Et donc, elle est obligée de créer un monodomaine qu'on voit ici. Tous les spins vont dans le même sens. Et ça, ça crée un macro-spin, donc un moment magnétique permanent, et vous avez un anneau-aimant qui a des propriétés particulières, notamment de superparamagnétisme. Et bien ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui en nanomédecine. On les utilise pour faire du contraste d'imagerie, on les utilise pour faire de la vectorisation médicale, et on les utilise même pour soigner en fait certains cancers. Autre exemple, les propriétés optiques. Ici, on a la fameuse expérience des particules de CDSE. Ces petites particules, donc c'est un semi-conducteur. Dans un semi-conducteur, vous avez une bande de valence, une bande de conduction. Pour que l'électron puisse passer de la bande de valence à la bande de conduction, il faut qu'il absorbe des photons. Bien. Et là, vous vous apercevez que ce sont des particules de CDSE, même structure cristallographique, même composition chimique. Pourtant, les petites émettent dans le bleu et les grosses émettent dans le rouge. Et ça, c'est tout à fait particulier dans ce domaine des nanos. Normalement, dans le monde massif, qu'on connaît bien, les propriétés de la matière, elles sont dues à la composition chimique, à la structure cristallographique, mais pas à la taille ni à la forme de l'objet. Eh bien, dans le monde des nanos, les propriétés dépendent de la forme et de la taille de l'objet. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il s'est passé qu'en fait, dans un semi-conducteur, donc l'électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, on a la création d'un électron-trou, et on a une distance, qui est le rayon de bord, entre l'électron et le trou. Imaginez maintenant que la particule est plus petite que cette distance. La nature est obligée de compresser, de rapprocher l'électron du trou, de confiner en fait le système. Et ça a pour conséquence l'ouverture de la bande interdite. Donc résultat, plus la particule est petite, plus l'ouverture de la bande interdite est grande, et donc bah, la longueur d'onde elle va varier. Et donc les petites émettent dans le bleu, et les plus grosses vont émettre dans le rouge. Donc vous avez changé les propriétés de la matière simplement en changeant la taille de la particule. Et ça, vous pouvez le faire avec tout. Les propriétés thermodynamiques, la température de transition de l'or, de changement de phase, s'effondre en dessous d'une certaine taille. Les propriétés électroniques, vous pouvez avoir un métal qui devient un isolant ou un semi-conducteur quand il est à plus petite échelle. Les propriétés de surface deviennent tellement énormes, il faut savoir que quand une particule fait 2, 3, 4 nanomètres, il y a plus de 50% des atomes qui sont en surface. Elle devient très réactive avec son environnement. Et les propriétés cristallographiques changent. Le paramètre de maille peut changer. Plus les particules sont petites, plus on a une compression du système. Résultat des opérations, vous avez des propriétés complètement différentes. Vous pouvez mélanger les propriétés optiques, propriétés magnétiques, propriétés électroniques, et faire ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, on trouve ces nanoparticules partout. Malheureusement, parce qu'on en mange de plus en plus, elles sont dans la nourriture, dans les emballages alimentaires, on les trouve dans les raquettes de tennis, dans les voitures, dans nos vêtements, dans les revêtements, dans les peintures, et j'en oublie. Et donc ça pose un problème, parce qu'en fait, on les met partout, mais on n'arrive pas à les mesurer. Et c'est ça le vrai souci. On arrive parfois à les fabriquer, mais on a du mal à les mesurer. Et donc la nanométrologie, qui est la science de la mesure à l'échelle du nanomètre, a été identifiée comme un domaine clé pour le développement des nanosciences et des nanotechnologies et du marché des nanomatériaux. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir optimiser les processus de fabrication, parce que souvent on a du mal, pour passer du laboratoire au secteur industriel, on a du mal à refaire la même chose. Donc il faut les mesurer correctement. Pour réduire les coûts de production notamment, améliorer les performances des produits à base de nanomatériaux, mais surtout aussi maîtriser les risques sanitaires et environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi elles sont potentiellement dangereuses. Il y a quelques années, le rapport de la Royal Society à Royal Academy montrait que la rupture technologique des nanosciences et nanotechnologies ne se situait pas au niveau de la fabrication, comme souvent on pouvait l'imaginer, mais au niveau des outils utilisés pour les observer et contrôler la fabrication à l'échelle nanométrique. On a du mal à les mesurer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a cru que c'était pareil qu'une molécule. Une molécule, quand vous avez la constitution, c'est-à-dire en fait les éléments chimiques qui la composent, la conformation et la configuration qui sont donnés par la physique quantique, eh bien, vous connaissez exactement à qui vous avez affaire. Vous savez que c'est une molécule, pas une autre. Et ça sera toujours la même. Donc vous pouvez constituer des grandes familles. Avec une nanoparticule, c'est totalement différent. Parce qu'une nanoparticule, elle peut être définie par la taille, par sa distribution en taille, elle peut être définie par sa structure cristallographique, sa composition chimique, par des impuretés en surface, par les charges en surface, par plein de choses. Et on est dans l'incapacité actuelle de constituer des familles de nanoparticules. Et ça pose des problèmes énormes d'un point de vue de la dangerosité, parce qu'on sait qu'elles sont petites, et donc elles peuvent passer toutes les barrières biologiques. L'épithélium intestinal, bronchique, olfactif, et puis le dernier, celui qui fait le plus peur, l'hémato-encéphalique. Il y a une scientifique du CEA qui a montré, alors en mettant des doses massives, je vous l'accorde, de nanoparticules de TiO2 chez les rats, et ben on les retrouvait au cerveau. Accumulation dans l'hippocampe, introduisant des problèmes d'apprentissage et de mémorisation, et puis aussi accumulation sur les systèmes nerveux centraux, maladies qui pourraient aboutir à des maladies neurodégénératives. Mais on ne connaît pas encore les paramètres pertinents qui montrent que certaines particules passent et d'autres ne passent pas. Et on a du mal aussi, quand on les met en présence d'un test toxicologique, de savoir pourquoi certaines montrent que c'est positif et d'autres négatif. On ne connaît pas encore les paramètres pertinents. Et puis les résultats des différentes études semblent être contradictoires. Ça, c'est un problème d'identification. On ne sait pas à qui on a affaire et de normalisation de méthode. Parce qu'avant tout, il faut dire aux biologistes, il faut mesurer les particules avant de les étudier. Donc, en 2009, un certain nombre d'organisations internationales, dans l'urgence, ont dit à partir de maintenant, on ne peut pas faire d'études sérieuses sans les avoir mesurées correctement. Et ils ont défini un certain nombre de paramètres, et ils ont choisi ces 8 paramètres obligatoires avant toute étude. La taille, la morphologie, la composition chimique, la structure cristallographique, la surface spécifique sont des paramètres intrinsèques d'un objet isolé. Et puis des effets collectifs, distribution en taille, état d'agrégation et d'agglomération, et enfin des effets dus à l'environnement, encore une fois l'état d'agglomération, la chimie de la surface et la charge en surface. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de métrologie derrière tout ça. Les méthodes, les mesurandes, les instruments, tout ça pose des problèmes. Donc comment poser les bases d'une métrologie adaptée à l'échelle du nanomètre ? Je prends un seul exemple, et après j'aurai fini, c'est la mesure de taille. On se dit, ça va être possible de mesurer la taille d'une nanoparticule. Mais pour les métrologues, il y a 2 types d'instruments. Les instruments ici, qu'on appelle techniques directes, et les autres qui sont des techniques indirectes. Direct ou indirect, ça veut dire qu'ils sont directement traçables au système international de l'unité, je vais vous le montrer tout de suite. Et indirect, ça veut dire qu'ils sont indirectement traçables au système international d'unité, ce qui peut poser quelques problèmes. Sur les techniques indirectes, on peut mesurer la surface spécifique par BET, la structure cristallographique, on peut en déduire des pics de diffraction remontés à la dimension d'une particule, ou on peut mesurer sa mobilité électrique par SMPS et en remonter à une taille. Je m'arrête juste sur celui-là, qui est la diffusion de la lumière. On sait que depuis Einstein, les particules ont un mouvement brownien, et on mesure ce mouvement brownien en fait avec un laser. Et on sait, grâce à la formule d'Einstein, que on peut relier le coefficient de diffusion à une certaine taille de la particule. Quand la particule est sphérique, ça va, on va avoir une bonne approximation de sa taille. Quand la particule est de forme allongée, ça pose un problème parce qu'en fait, ce qu'on mesure, ce n'est pas un diamètre physique, mais un diamètre équivalent. C'est quoi un diamètre équivalent ? C'est le diamètre d'une sphère qui donnerait le même résultat si elle était analysée dans les mêmes conditions que la particule complexe qu'on souhaite mesurer. Donc là, on va faire un biais de mesure. Alors, c'est vrai que toutes ces techniques-là, ou certaines d'entre elles, peuvent être rapides, avoir des informations globales, sont peu coûteuses, donc elles sont beaucoup utilisées dans l'industrie, mais elles peuvent être problématiques d'un point de vue de la mesure. Alors, il y a des techniques ici, qui sont les techniques directes, c'est toutes les techniques de microscopie, à force atomique ou la microscopie électronique. Alors, elles ont des avantages, hein, mais elles ont aussi des inconvénients. Elles sont chères, elles demandent de l'expertise, ça prend beaucoup de temps. Mais par contre, elles sont directes. Directes, ça veut dire quoi ? Alors, même si je prends 2 de ces techniques de mesure, eh bien, elles peuvent poser des problèmes. Je prends 2 exemples le microscope à force atomique, c'est quoi? C'est une petite pointe que je vais promener sur la surface. Et les interactions entre la pointe et la surface vont faire que si j'arrive à suivre la pointe, elle va me donner la topographie. En fait, je vais avoir une image due à cette interaction de la pointe et de la surface. Mais comme vous le voyez ici, j'ai un objet nanométrique. La pointe, elle va rentrer en interaction avec l'objet. Je vais avoir une très bonne mesure ici de la hauteur, mais par contre, l'image va me donner un élargissement dû à la convolution de la pointe et de l'objet. Donc je vais avoir une mauvaise mesure latérale. Avec le microscope électronique à balayage, là, la physique est complètement différente, hein, c'est de l'interaction entre les électrons et la matière. Je ne vais pas avoir du tout de mesure de hauteur, mais par contre, je vais avoir une bonne mesure latérale, parce que je vais pouvoir suivre correctement mon faisceau d'électrons. Donc, vous voyez, tout à l'heure, en métrologie électrique, il suffisait d'utiliser un multimètre partout dans le monde et je mesurais ma tension. Là, pour mesurer la taille d'une nanoparticule, eh ben, il faut que j'utilise plusieurs instruments parce que les instruments ont des avantages et des inconvénients et ça pose des problèmes. Voilà, et je terminerai là. C'est que s'il y a deux laboratoires, un laboratoire A ou un laboratoire B, qui va utiliser un microscope, tel que je viens de le montrer, un microscope à force atomique, puis l'autre, l'autre laboratoire, un microscope à force électronique à balayage, eh bien, je vais avoir deux. Le laboratoire A va me donner une mesure, et le laboratoire B va me donner une autre mesure. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de ça? Et c'est ça le vrai problème des études sur la toxicité des néoparticules entre les laboratoires. C'est qu'ils peuvent trouver, alors que c'est les mêmes nanoparticules qui sont étudiées dans les deux laboratoires, mais ils peuvent tomber sur des écarts de mesure. Qui a raison? Le laboratoire A ou le laboratoire B? Eh bien, comme ça, à cause de cet écart, je ne sais pas. En revanche, si j'évalue les incertitudes, là, j'ai beaucoup plus d'informations. Je sais d'abord que le laboratoire A peut-être travaille un peu mieux que le laboratoire B puisqu'il a une incertitude plus faible. Et je sais que finalement, eh bien c'est la vraie réponse, elle est par là. Mais ça, c'est vrai que si les deux microscopes sont étalonnés par rapport au système international d'unité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, je peux comparer la mesure faite par le laboratoire A par rapport au laboratoire B que si les deux microscopes sont étalonnés. Et si j'ai estimé mon incertitude de mesure? Là, à ce moment-là, ma mesure revêt un caractère universel, elle devient comparable entre divers instituts, divers laboratoires et entre différents instruments. Et donc, comment on fait pour étalonner deux types de microscopes? Eh bien, on va mesurer une structure de référence. Et comment on fait ce lien entre la structure de référence et la définition du mètre donc, que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire la distance de la lumière, la distance parcourue par la lumière en un certain nombre en une certaine fraction de seconde? Eh bien, on utilise en fait un laser stabilisé en fréquence. C'est ce laser stabilisé en fréquence qui est en fait l'étalon de représentation de la seconde dont je vous ai donné la définition tout à l'heure. Et ce laser stabilisé en fréquence, il va étalonner des lasers. Et l'interféromètre laser que nous avons monté sur l'AFM métrologique, le microscope à force atomique que nous développons au LNE, qui est doté de 4 interféromètres ici, et qui va, in fine, mesurer la structure de référence. Et c'est cet instrument de référence, étalonné grâce à l'interférométrie jusqu'à la définition du mètre, qui va donner le certificat d'étalonnage aux deux laboratoires qui auront fait leurs mesures. Et de cette manière-là, la mesure qui est réalisée par les deux laboratoires va être traçable au système international d'unité. Voilà comment ça se passe. Et donc j'ai essayé de vous montrer que pour bâtir les bases d'une nanométrologie, il faut établir les chaînes de traçabilité pour toutes les grandeurs, estimer les incertitudes de mesure, élaborer des nouveaux étalons, développer des méthodes et des protocoles reconnus par tous, et ça c'est le problème de la normalisation, et souvent recouper les mesures effectuées par plusieurs techniques. Et donc en conclusion, et donc ça vous avez bien compris que là on a du travail pour les décennies à venir, et en conclusion, la métrologie va continuer se nourrir des avancées de la physique, que Le processus qui va mener à un nouveau système international d'unité fondé sur des constantes fondamentales universelles, bah vous avez bien compris qu'il est déjà enclenché et que finalement, c'est en 2017 que tout va se jouer, que ce nouveau système d'unité sera plus en accord avec la physique moderne et notamment avec le développement des nanotechnologies et des nanosciences, que le lien, hein, c'est un ménage à trois là, que le lien entre métrologie, physique quantique, nanotechnologie va se renforcer dans les années à venir. Parce que les défis qui sont devant nous, c'est de mesurer le quantum d'action, petit h, par la balance du Watt, continuer à le faire, le quantum d'information, KB, pour les températures, et puis, il est clair que la métrologie de demain, ça va être la détection d'un quantum unique. Petit e, le spin nucléaire électronique, un phonon, un photon, mais que pour que ces appareils puissent fonctionner, il va falloir qu'ils fonctionnent à température ambiante. Parce que pour l'instant, comme vous l'avez vu, hein, nos dispositifs, ils fonctionnent à basse température. Et bien pour ça, il faut réduire en taille. Donc, on va avoir besoin de plus en plus de nanodispositifs et de nanotechnologies pour faire tous ces appareils du futur. Et ces défis donc, dépendront du développement de dispositifs complexes, structurés à l'échelle nanométrique. Ça pourra être des dispositifs utilisant des nanotubes de carbone, du graphène et de l'électronique moléculaire. Et je finirai enfin avec deux physiciens. Donc Galilée, mesurer tout ce qui est mesurable et essayer de rendre mesurable ce qui n'a pas été encore mesurable jusqu'ici. Et puis Sir William Thompson, devenu Lord Kelvin. Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et que vous pouvez l'exprimer en nombre, alors vous connaissez quelque chose à son sujet. Mais quand vous ne pouvez pas le mesurer et quand vous ne pouvez pas l'exprimer en nombre, alors votre connaissance est bien maigre et tout à fait insatisfaisante. Voilà, je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.